Salutations à vous tous. Alors que nous nous réunissons à cette soirée inaugurale de la Fête des Tabernacles 2021. Comme je l'ai dit l'année dernière, quelle année ça a été? Et encore cette année, quelle année encore? Nous avons eu aux États-Unis la prise d'assaut du Capitole. Nous avons eu de terribles tempêtes au Texas qui ont coupé le réseau électrique pendant un certain temps. Ceux qui l'ont vécu savent à quel point c'était grave. Nous avons eu la fermeture du pipeline colonial à cause d'une cyberattaque avec demande de rançon. Toute la côte est et sud était à la recherche de carburant. 70% des stations-service de Caroline du Nord n'avaient plus de carburant. Nous avons eu beaucoup de problèmes. La pandémie continue actuellement. Coronavirus. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez été confinés au cours de 2021. Nous ne savons même pas si tout le monde peut célébrer en personne la Fête des Tabernacles cette année, à cause des restrictions gouvernementales à différents endroits du monde. Dans certains pays, comme en Inde, les gens ont énormément souffert. Qui sait combien de temps il faudra encore attendre pour que cela se calme et que les gens puissent revenir à une certaine forme de normalité? Ce fut donc toute une année. Nous sommes ici pour célébrer la Fête des Tabernacles 2021. 1990 ans après celle qui a eu lieu, à la suite de la crucifixion et de la résurrection du Christ, après la fête de la Pentecôte, dont il est question dans Acte 2. C'était en l'an 31 de notre ère. Il y a donc 1990 ans de cela. Ce soir, je veux poser quelques questions très simples. À quoi ressemblera leur première fête? À quoi penseront-ils le soir de l'ouverture de la Fête des Tabernacles? Peu importe en quelle année ce sera. Et en ce qui nous concerne maintenant, que devons-nous faire pour utiliser notre temps ici de manière profitable? La première chose à laquelle je dois répondre est « Qui sont ces gens auxquels je fais référence? » La réponse se trouve dans Zacharie 14. Je suis sûr que vous savez exactement de qui je parle, par l'écriture que je mentionne. Et j'espère que nous nous souviendrons où se trouvent ces écritures, car le temps viendra où vous et moi devrons expliquer ces choses à des gens. Dieu nous appelle à être des enseignants et des sacrificateurs. Ici, dans le 14e chapitre de Zacharie, après que Christ sera revenu pour être le roi des rois et le seigneur des seigneurs, verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Il parle de l'Égypte ici. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 19. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ainsi, après le retour du Christ, l'ordre sera donné d'envoyer des représentants à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Or, Jérusalem ne peut pas accueillir le monde entier. Donc, il y aura sans doute aussi des sites locaux, comme nous en avons aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Et qui va enseigner à ces gens-là à ce moment-là? Ce sera probablement vous et moi, et peut-être nos enfants, qui vivront jusqu'au millénium. Certains d'entre eux seront peut-être appelés à donner des instructions dans certaines parties du monde. Il est question des personnes qui viendront célébrer la fête des tabernacles la toute première année après le retour du Christ. C'est de ces personnes dont je vous parle. Alors, mettons-nous à leur place, dans leur pensée, pour un instant. Rappelez-vous ce qui aura amené cet événement capital. Nous pouvons lire cela dans le livre de Daniel, au chapitre 12, au verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il ne peut y avoir qu'une seule époque comme celle-ci, et elle est encore à venir par rapport à nous. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Il va donc y avoir une délivrance pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Pas seulement ceux dans Jérusalem, comme on le voit ici, mais tout le peuple d'Israël. Ce sera un temps de délivrance de Satan. Le diable. Mais il faudra un peu de temps au cours du millénium pour que son influence disparaisse complètement. Il sera parti, d'accord, mais les gens penseront encore comme autrefois, pendant un certain temps. Cela ne fait pas de doute. Nous lisons dans Matthieu 24, 21 et 22, Jésus dit que la situation allait devenir si grave que toute chair pourrait être détruite de la surface de la terre. Personne ne survivrait, mais il interviendra et les sauvera. Le monde entier aura traversé alors la plus grande période de troubles que nous puissions imaginer. Spécifiquement, plus encore que pour le monde dans son ensemble, quoique personne ne s'en tirera à bon compte, ce sera traumatisant pour tout le monde. Nous lisons dans Jérémie 30 que ce temps de la fin sera très traumatisant pour un certain groupe de personnes en particulier. Verset 7 de Jérémie 30. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. Il s'agit donc du même temps que celui dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 et dans Daniel 12. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est donc un temps d'angoisse pour Jacob. Le peuple d'Israël et ceux qui vivent dans les nations d'Israël, qui ont été bénis bien plus que les autres sur la face de la terre. Ils ont la richesse physique et des bénédictions de toutes sortes. Mais nous avons dilapidé ces bénédictions. Nous avons rejeté Dieu. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Et nous le constatons de plus en plus chaque jour, alors que notre nation s'enfonce dans le péché et le chaos de la spirale de décadence morale. Il dit que la situation est grave. Un temps d'angoisse pour Jacob. C'est donc particulièrement troublant pour le peuple d'Israël. Considérez ce que le monde entier va subir avant ce premier soir de la fête des tabernacles. Il y aura eu les 6 sceaux de l'Apocalypse, les 4 cavaliers tels que décrits, et le 5e sceau, le martyr des saints, puis les signes célestes, le 6e sceau qui frappera de terreur l'humanité. Les gens se cacheront dans des grottes, derrière des rochers, partout où il sera possible de se cacher, à cause des signes célestes et sans doute des tremblements de terre et des autres choses qui vont se produire. Cela va terrifier les gens. Et ce n'est qu'un début, car cela mènera au 7e sceau, qui est le jour du Seigneur, le jour de la colère de l'agneau, le jour de la colère de Christ sur l'humanité rebelle. Puis, il y aura les 7 fléaux de trompettes qui seront des désastres écologiques et humains, des désastres provoqués par la cupidité humaine, la guerre et autre chose. Il y aura 7 fléaux de trompettes, et la 7e trompette sera composée de 7 derniers fléaux qui causeront encore plus de désastres écologiques et naturels, des désastres dits naturels, mais causés par Dieu, qui les répandra sur l'humanité, l'humanité rebelle, les gens qui refusent de se repentir. Toutes ces choses vont se produire très rapidement, car aucune chair ne survivrait si ça ne se faisait pas sur une très courte période de temps. Ces moments seront très difficiles et se termineront par cette grande bataille où les armées du monde combattront le Christ à son retour. Tout cela va se produire. Pouvez-vous imaginer à quel point le monde sera traumatisé à ce moment-là? Nous nous habituons au problème. Mais si vous considérez tout ce qui va se produire dans une période de temps relativement courte, les gens seront traumatisés à un degré que nous ne pouvons pas imaginer. Quand vous pensez à ce qui s'est passé au cours des dernières années, à cause de coronavirus, depuis les 2 dernières années, à tous les traumatismes que nous avons subis, attendez de voir ce qui arrivera durant les 3 dernières années et demie de la tribulation et le jour du Seigneur. Ce sera vraiment traumatisant. Lorsque ces personnes referont surface, elles découvriront alors un monde totalement détruit, vaincu, complètement vaincu. Comme ça arrive à toute nation ayant perdu la guerre, comme ça s'est produit pour les Japonais et les Allemands après la 2e guerre mondiale, mais aussi les autres nations qui ont souffert. la Russie, l'Europe et tous ceux qui ont souffert durant cette guerre. Lorsque la guerre touche à sa fin et qu'ils ont le temps d'y repenser, ils constatent l'horreur qu'ils ont vécue. Ces gens ont traversé des épreuves qu'ils n'auraient jamais, jamais, jamais pu imaginer. Ces personnes vont réellement subir une situation épouvantable. C'est difficile pour nous de le comprendre. Nous savons que des fléaux vont venir. Mais combien d'entre nous étaient vraiment préparés, par exemple, à la pandémie de coronavirus? Mentalement et spirituellement, nous voyons maintenant que les choses pourraient être bien pires. Nous y pensons, mais seulement lorsque nous avons pris conscience de la situation. Ésaïe 40, versets 1 et 2, nous donne des mots d'encouragement. Formidable. Je vais les lire ici. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Jérusalem a été le centre de tant de problèmes dans le monde, et elle continuera de l'être. Encore plus à la toute fin, car elle sera au cœur même des événements de la fin. Dieu dit qu'il viendra un temps. Par contre, pour consoler Jérusalem, Juda et le peuple d'Israël. Vraiment, le monde entier sera réconforté et consolé. C'est pour ça qu'il dit « Parlez au cœur de Jérusalem ». D'un autre côté, il y aura des pays qui verront les choses autrement. Ils ne seront pas réconfortés immédiatement. L'Égypte semble être un pays un peu dur d'oreille au coured, qui ne se soumettra pas la première année. Nous n'en sommes pas sûrs. C'est un exemple que Dieu nous donne. Mais quand vous voyez la haine de certains des pays arabes et de d'autres peuples du Moyen-Orient, la haine qu'ils ont envers Juda et Israël, certains d'entre eux peuvent être têtus, avoir le cou raide et ne pas vouloir obéir la première année aux directives de Dieu. Mais ils seront traumatisés d'une manière différente, comme une nation vaincue, comme un peuple vaincu. À ce moment-là, ils ne seront pas réconfortés immédiatement, ils seront plutôt punis pour comprendre. Pouvez-vous imaginer quelle sera l'atmosphère? Je suis sûr que le roi des rois mettra en place le plus grand plan d'organisation qui ait jamais existé sur la terre. Pensez à tous les efforts que nous faisons, par exemple, pour organiser la fête des tabernacles. Nous avons eu dans le passé des chorales, des orchestres. Pas tellement ces dernières années, mais je me souviens encore qu'à Wisconsin Dells, M. Oaks avait formé un orchestre d'une centaine de musiciens, ou à peu près, et un chœur de 200 à 300 personnes. Je ne sais pas le nombre exact. Un énorme chœur et un grand orchestre avec timbales et autres instruments. Ils jouaient des pièces de musique qui vous donnaient littéralement des frissons dans le dos. Je suis sûr que le roi des rois aura un chœur et un orchestre qui s'exécuteront lors de la soirée inaugurale et pendant la fête. Ce sera formidable, que les cantiques seront inspirés et donneront des frissons à tous ceux qui seront présents, y compris la nouvelle famille de Dieu. Tous ceux qui seront nés dans la famille même de Dieu. Peut-être entendrons-nous des chœurs angéliques et la plus grande musique écrite à ce jour. Des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Puis, nous entendrons des messages réconfortants, presque sûrement donnés par Jésus lui-même. Nous n'en sommes pas certains, bien sûr, mais ce sera probablement le cas. Les paroles que Jésus prononcera seront des paroles de réconfort, des paroles de bienveillance. Dans Ecclésias, chapitre 10, nous lisons ceci au verset 12, je ne prendrai pas le temps de m'y reporter, mais je vous le dis simplement. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Jésus va prononcer des paroles bienveillantes. Il va réconforter ceux qui seront là. ce groupe de païens vaincus qui avaient lutté contre lui, les Israélites qui l'avaient combattu, et les gens qui ont souffert dans la tribulation, qui ont même souffert le martyr, ils seront réconfortés. C'est ce qui est écrit. Ils seront heureux. Il y aura là un mélange de gens. Chacun aura besoin de réconfort. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Allons maintenant au livre de Luc, au chapitre 4, et nous allons lire le verset 22. Luc, chapitre 4, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Ils étaient surpris par ses paroles gracieuses. Il est évident qu'ils le connaissaient, ou qu'ils connaissaient sa famille, car cela se passait à Nazareth. Ces gens étaient, en quelque sorte, de son peuple. Mais quel était le contexte de sa déclaration bienveillante? Revenons à Luc, chapitre 4. Voyons maintenant ce que dit le verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, verset 26, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous savons qu'après, il referma le livre et déclara ceci. Verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'était une préfiguration de ce qui allait s'accomplir plus tard. Lorsqu'il parle d'une année de grâce du Seigneur, il fait également référence au jour du Seigneur et à ce qui s'ensuivra. Il s'agit donc d'une prophétie, non seulement de ce qui s'est produit à ce moment-là, mais aussi de ce qui doit encore se produire à l'avenir. Il a prononcé des paroles gracieuses, et il prononcera sans aucun doute d'autres paroles gracieuses ou bienveillantes lorsqu'il reviendra. Vous savez que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. On le voit dans Exode, au chapitre 34. Moïse voulait en savoir davantage sur le nom de Dieu. Au verset 5, il est écrit « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Voici ce que signifie son nom. C'est son caractère, sa personnalité, ce qu'il est. Voilà. Il s'agit bien sûr de Jésus. Mais comme lui et son Père sont un, ce nom décrit les deux personnages, s'applique aux deux grands personnages. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Pouvez-vous imaginer toutes les transgressions et tous les péchés qui devront être pardonnés à ce moment-là, au début du millénium? Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Il y a donc un prix à payer pour ceux qui refusent de se repentir. Mais les vaincus s'humilieront pour la plupart à ce moment-là. Certains d'entre eux auront le cou raide au début et se soumettront parce qu'ils y seront obligés. Mais il ne faudra pas longtemps pour qu'ils comprennent le caractère même de Dieu qui nous a créés pour qu'ils l'apprécient, pour qu'ils le découvrent et pour apprécier ce qu'il va faire pour eux. Plusieurs se comporteront comme des enfants ayant été réprimandés, qui se glissent dans les bras de leur père pour être réconfortés. Le Christ les consolera. Cette attitude doit aussi être la nôtre. Après une bonne nuit de repos, au début de la fête, les gens iront à l'assemblée du matin pour y être enseignés. Il y aura sans doute des assemblées tous les jours au cours de la fête, comme on peut le lire dans le livre de Néhémie, où les gens se réunissaient chaque journée. Ils entendront donc la parole de Dieu chaque jour. Peut-être que l'enseignant commencera par expliquer les jours saints et les fêtes dont la signification révèle le merveilleux plan de Dieu, pour que ces personnes apprennent ce que Dieu a fait depuis le tout début. Il commencera par la Pâque, et si c'est le Christ qui parle ou quelqu'un d'autre qui enseigne, il indiquera que Christ est celui qui a tout créé. Il lira peut-être Colossiens 1, versets 15 à 18, montrant que c'est lui qui a créé toutes choses, les choses visibles et invisibles, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ils apprendront d'où venait le Christ, que c'est lui qui était le Dieu de l'Ancien Testament, que c'est lui qui a provoqué un déluge mondial pour détruire l'humanité, parce qu'elle était devenue tellement corrompue à cette époque. Et c'est sa colère, s'abattant sur l'humanité, qui les aura finalement amenés là où ils seront pour observer cette première fête des tabernacles. Il est celui qui a sauvé Israël de l'Égypte. Il est celui qui a été tué à cause de nos péchés. Ce message ira aux musulmans, aux bouddhistes, aux gens du monde entier, aux athées. Ils vont finir par comprendre la Pâque et ce qu'elle signifie, pourquoi elle a eu lieu anciennement et ce qu'elle signifie pour eux aujourd'hui. Il va expliquer la fête des pains sans levain et dire comment nous devons sortir du péché, comment nous devons changer, que nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Les gens vont avoir beaucoup de péchés à éliminer de leur vie. Il y aura des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels. Il y aura des adultères, des fornicateurs, des personnes qui se seront droguées et ainsi de suite. Beaucoup d'entre eux ne survivront probablement pas au temps annoncé. Mais il y en aura qui survivront. Certains auront connu la prison parce qu'ils étaient des voleurs, des meurtriers ou des choses du genre. Ils devront reconnaître qu'ils doivent se débarrasser de leur ancien mode de vie, abandonner cette voie de vie. Il sera question de la Pentecôte. Ils découvriront que c'est Jésus qui a énoncé les 10 commandements et qui a conclu une alliance avec l'ancienne nation d'Israël. Ils apprendront qu'il est revenu et qu'il fera une alliance nouvelle avec la maison d'Israël, la maison de Juda et avec l'humanité entière, parce qu'ils deviendront tous des enfants d'Abraham spirituellement. Une nouvelle alliance va donc être conclue dans le futur. Il ne fait aucun doute qu'il leur dira « Souvenez-vous de ces deux témoins que vous avez tués. Ils sont vivants maintenant. Ils font partie des prémices. » Et souvenez-vous de tous ces autres que vous avez assassinés, persécutés, que vous avez rejetés et dont vous vous êtes moqués. Ils sont ici, avec moi, avec le Christ. Ils vont vous enseigner et travailler avec vous. Souvenez-vous de ces jours terribles que vous avez traversés au cours des 3 dernières années et demie de l'Ancien Monde, en particulier durant la dernière année. C'est ce qui illustre la fête des trompettes. Les 7 fléaux de trompette. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à tel ou tel moment et de ce qui est arrivé ensuite. L'enseignant va récapituler les événements des 7 trompettes et leur dire, vous pouvez lire dans le 7e, 8e, 9e et 11e chapitre de l'Apocalypse comment les désastres écologiques ont eu lieu et comment une grande bataille s'est déroulée entre 2 superpuissances. Vous pouvez lire toutes ces choses et voir comment le Christ est finalement revenu. Ces choses ont été prophétisées il y a environ 2000 ans. Considérez ce que vous avez traversé et voyez ce que la Bible rapporte ce que l'Apocalypse a annoncé. Remarquez que cela s'est passé exactement comme la Bible l'a prédit, comme Jésus l'a inspiré. En ce qui concerne le jour des expiations, il leur sera dit, « Vous avez subi la mauvaise influence spirituelle du petit Dieu de ce monde, celui qui dirigeait alors le monde dont vous faisiez partie. » Cet esprit mauvais a été écarté, et désormais, il y aura un nouvel esprit dans le monde, comme c'est écrit dans Ézéchiel au chapitre 11, versets 17 à 21, dans Ézéchiel 36, dans Jérémie 31 aussi, du verset 31 au verset 34. On peut aussi voir la même chose décrite dans le livre aux Hébreux, au chapitre 8. Un nouvel esprit sera donné à l'humanité. Vous aurez désormais un esprit différent. Et celui qui influençait le cours de ce monde et l'entraînait sur une voie fausse et mauvaise, celui qui a conduit le monde à toute cette destruction, ne sera plus là. Vous verrez la différence très bientôt, au fur et à mesure que cela va se passer. Puis ils entendront parler de la fin des tabernacles et liront sans doute Ésaïe, le chapitre 2. Ils apprendront ce qui va se produire ensuite. Ésaïe 2, verset 2, dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps, il est ici question de notre époque, comme cela sera expliqué à la fête la première année, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Jérusalem sera l'endroit vers lequel les gens se tourneront. Ce sera le centre du savoir, la capitale mondiale. Ici même, où vous êtes, pour ceux qui s'y trouveront. Et ceux qui célèbrent la fête ailleurs l'entendront aussi, entendront parler de Jérusalem, et que toutes les nations y afflueront. Ce sera l'endroit où les gens voudront se rendre pour être instruits, peut-être pas la première année, mais certainement au fil du temps. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Ils en viendront à respecter le peuple par lequel Dieu travaille, par lequel il a exécuté son plan, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. La loi que le faux christianisme a rejetée, la loi que le monde ne connaissait pas beaucoup dans bien des cas. Mais même la partie de la loi qu'ils connaissaient, ils ne l'ont pas gardée. Ce sera à ce moment-là la loi du pays à partir de ce jour. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Remarquez le verset 4. Il va juger, le Christ l'affirmera, ou ceux qui parleront à son nom. Christ sera le juge des nations. Il va revenir avec une verge de fer pour prendre charge des entêtés, des gens qui ont opprimé leur peuple durant toutes ces années. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances, des serpes. Vous n'allez plus faire la guerre. Vous n'allez plus vous battre comme vous l'avez fait dans le passé. Il n'y aura plus de West Point, d'Annapolis ou de tout autre endroit dans le pays d'où vous venez, où les écoles militaires enseignent aux gens à se battre et à détruire. Il n'y aura plus non plus de jeux vidéo où les gens s'entretuent, ni de séries télévisées sur les zombies, par exemple, comme The Walking Dead aux États-Unis, dans lesquelles il est normal de tuer des êtres à demi-vivants. Je suppose que c'est ce dont il s'agit, car je n'ai jamais regardé une de ces émissions, j'ai seulement vu les bandes annonces. C'est devenu très populaire, du moins dans cette partie du monde. Mais c'est de la folie. Le Christ va décréter que les nations ne vont plus lever l'épée les unes contre les autres. Nous n'allons plus apprendre ces choses. Et vous savez quoi? Il n'y aura plus de second amendement à ce moment-là. Le second amendement aux États-Unis donne le droit de porter des armes. Certains Américains ont besoin d'apprendre que cet amendement ne fait pas partie de la loi de Dieu. Je ne suis pas contre les armes. J'ai moi-même un fusil de chasse et j'ai fait un peu de chasse. Les gens ne pourront plus se soulever contre le gouvernement. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe, le 11e chapitre, sera aussi mentionné. Je ne le lirai pas, mais vous l'entendrez sans doute pendant la fête, où nous voyons que le lion habitera avec l'agneau. Ces propos ont un sens littéral, mais c'est aussi une allusion aux gens puissants, aux gens forts, qui s'en prennent aux faibles du monde. Ils ne s'attaqueront plus aux faibles. Nous n'aurons plus ces appels, si nous avons encore des téléphones à cette époque, rapportant que des gens s'attaquent à des personnes âgées ou à des gens plus faibles pour voler leurs possessions, leur économie de toute une vie. Les puissants ne s'attaqueront plus aux faibles. On fera aussi mention d'Ésaïe 35. Comment ne pas lire ce chapitre à ce moment-là? Ce ne sera pas seulement une prédiction, ce sera réel à ce moment-là. Ésaïe 35, verset 5. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. » Il y aura des gens sur place qui auront été aveuglés spirituellement, mais les yeux des aveugles, au sens propre du terme, s'ouvriront également. De grandes réjouissances auront lieu, on s'imagine très bien. Quand exactement cela se produira-t-il? Les gens seront-ils loin pendant la fête? Le Christ va-t-il ouvrir leurs yeux physiquement aussi bien que spirituellement à cause d'un nouvel esprit dans le monde? S'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Quand ces choses se produiront-elles au cours du millénium? Nous ne le savons pas, mais cela se produira sans aucun doute très rapidement. Ensuite, il sera question du 8e jour de la fête. Je suis sûr que, dès le début de la fête, certains auront prévenu les nouveaux en disant « Attendez de savoir ce qui sera expliqué le dernier jour de cette fête, le 8e, qui est une autre fête. Nous avons tellement hâte que vous sachiez de quoi il s'agit. Ce sera une information cruciale, une merveilleuse nouvelle pour tous. On vous expliquera que vos proches ne sont pas perdus à jamais, qu'ils auront une opportunité, qu'ils auront leur chance de salut. Pouvez-vous imaginer ce que ce sera d'être à cette fête des tabernacles après avoir sorti de tous ces traumatismes qu'ils auront subis? Nous attendons avec impatience cette époque, ainsi que la deuxième et la troisième fête et les suivantes, durant tout le millénium, 1000 ans d'observance de la fête des tabernacles. Revenons maintenant à ce soir, car ces choses nous concernent, vous et moi. C'est le temps de revenir à notre réalité, de considérer le présent. Allons à Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. J'espère que nous sommes ici parce que nous avons été fidèles en mettant de côté nos dîmes pour aller à la fête. Certaines personnes prennent cela à la légère. Nous allons l'enseigner dans quelques années. Dieu va-t-il se servir de nous pour enseigner quelque chose aux autres que nous n'aurions pas pratiqué ni préparer nous-mêmes? J'espère que nous avons été fidèles dans cette démarche. Je dis cela parce que je sais que certains ne le sont pas. La plupart d'entre vous sont fidèles dans cela, mais certains ne le sont pas. Je suppose que, si ce n'est pas le cas, le fait que je dise quelque chose ne changera rien, mais je le fais avec espérance que ça va changer. J'espère que les gens comprendront le message. Verset 23, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour lui faire résider son nom. » Jérusalem sera un lieu de fête dans le futur, mais tous ne pourront pas s'y rendre en même temps. Les gens seront répartis dans le monde entier, dans différents endroits, comme nous le sommes en ce moment. Mais il sera possible d'y aller. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Pour en arriver à avoir un plus grand respect, une plus grande compréhension, une plus grande connaissance de l'Éternel Dieu, de Jésus-Christ et de notre Père aussi. Que nous puissions comprendre leur esprit, leur caractère. Comme Galates 2:20 le mentionne, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous vivons parce que Christ vit en nous et utilise la puissance de son esprit pour vivre en nous, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous rendre différents de ce monde et différents de ce que nous étions dans le passé. Nous avons besoin de grandir, de changer constamment, de comprendre davantage la volonté de Dieu. Et ensuite, il montre que nous pouvons transformer la dîme, si elle est agricole, en argent. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, un bon beefsteak, un bon gigot d'agneau, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et nous nous réjouissons, n'est-ce pas? Nous aimons célébrer la fête. Je sais que je le fais toujours, et que j'apprécie certaines de ces choses, comme aller dans un bon restaurant ou un barbecue, déguster une excellente nourriture, en bonne compagnie, en appréciant vraiment ces choses. Je me rappelle que certaines personnes m'ont déjà dit, lorsque je commençais à découvrir la vérité, « Oh, c'est là une servitude! » Il m'arrive souvent de dire, devant un bon repas à la fête, alors que je suis assis et que je profite d'un merveilleux mets, « N'est-ce pas de l'esclavage? N'est-ce pas affreux? N'est-ce pas terrible? » Non, au contraire, c'est merveilleux et Dieu veut que nous nous réjouissions. Il veut que nous puissions profiter du fruit de notre travail et que nous nous réjouissions. Mais réjouissons-nous avec un but précis. Réjouissons-nous avec d'autres personnes, avec toute notre famille. Ne nous contentons pas de consommer égoïstement pour notre seul plaisir, mais profitons-en pour partager et servir les autres. Allons à Philippiens, chapitre 2, parce que c'est l'attitude, c'est la leçon que nous devons apprendre dans cette vie et pratiquer à la fête en particulier. Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, l'Esprit de Dieu travaille en nous et nous rassemble, nous fait nous approcher les uns des autres. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rappelez-vous que Jésus a dit que lui et son Père sont un. On le voit dans Jean chapitre 17, où Jésus a prié son Père le soir précédant son arrestation. Il a dit, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Cette unité, cet amour profond et durable, la capacité de pardonner, de passer outre, de persévérer et de se supporter les uns les autres, c'est ce que Dieu veut que nous apprenions à faire. Après, il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne pas essayer d'écraser quelqu'un pour avancer. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Autrement dit, que l'on place les besoins des autres avant nos propres besoins. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est ce que nous devons apprendre ici. Et pour cela, nous avons une merveilleuse occasion, une période de 8 jours pour apprendre à considérer d'abord les besoins des autres et à les aider. Peut-être en offrant quelques heures de gardiennage à un couple pour leur permettre, par exemple, une sortie seule en tête à tête, pour les aider de cette façon-là. Certains de nos jeunes peuvent le faire aussi, ou n'importe quelle autre personne peut le faire. Si vous voyez un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui semble seul, invitez-le à se joindre à votre groupe. Même si vous êtes en famille, vous pouvez toujours profiter de la présence d'une autre personne et lui donner ainsi l'occasion de sentir qu'il fait aussi partie d'une grande famille, la famille de Dieu. Nous sommes ici pour nous projeter en pensée dans le futur. Lorsque Jésus-Christ et les saints, vous et moi, je l'espère, si nous demeurons fidèles, feront connaître la fête des tabernacles à un monde brisé, à des gens écorchés. Cela va se produire. C'est très réel et c'est proche. En ces jours de fête, réjouissez-vous avec les vôtres, avec ceux autour. Apprenez tout ce que vous pouvez, car ces choses, vous allez les enseigner dans un avenir très proche. Et si une personne seule ou un étranger s'assoit à côté de vous, ou de votre famille, ou encore un couple de nouveaux venus, faites-les entrer dans la grande famille de Dieu. Allez vers eux. Faites-les se sentir faire partie justement de la grande famille de Dieu. Sur ce, reposez-vous. Passez une bonne nuit. Nous nous verrons demain.